Bonsoir. Donc, nous allons commencer cette réunion. Je vous demanderai simplement d'avoir la gentillesse d'éteindre votre portable. Donc, je suis heureuse de vous accueillir dans cette salle et je vais vous présenter les personnes qui sont à côté de moi. Alors, donc, à ma gauche, Vincent Chevrolier, professeur des écoles. À ma droite, Nathalie Arthaud. Et donc, moi, je suis Marie-Josée Aubert, donc enseignante aussi à Chartres. Commencer cette réunion, je vais laisser la parole à Vincent qui va intervenir sur la situation du monde du travail à Chartres et en Eure-et-Loire.
Chers amis et chers camarades, comme dans le reste du pays, les jeunes, les travailleurs, les retraités du département d'Eure-et-Loire connaissent de sérieuses difficultés dû à la rapacité des patrons, qui sont bien aidés par la politique des gouvernements comme des politiciens locaux. En Eure-et-Loire, le chômage est comme partout en augmentation. Il touche officiellement presque 9% de la population, soit 26 850 personnes, ce qui est énorme. Ce n'est pas étonnant, comme dans de nombreuses régions, il y a eu depuis des années toute une vague de fermetures d'entreprises ou de licenciements à Chartres, mais aussi à Châteaudun, Épernon, Nogent-le-Rotrou, Dreux. Aujourd'hui, la principale entreprise qui doit fermer dans la région est Ethicon, à Ono, une usine spécialisée dans la fabrication de sutures médicales. Sa fermeture va laisser 365 personnes sur le carreau. Eh bien, selon le directeur du site, cette fermeture contribue, je le cite, à la saine gestion d'un groupe. Voilà comment ces gens-là raisonnent. La saine gestion d'un groupe, licencier 365 personnes. Et le groupe dont fait partie Ethicon n'est pourtant pas une petite entreprise en difficulté, puisqu'il s'agit de Johnson & Johnson, un des plus importants fabricants au monde de produits pharmaceutiques, matériel médical, produits d'hygiène et autres cosmétiques. Un groupe qui a réalisé plus de 13 milliards de dollars de bénéfices en 2010, en augmentation de 8,5%. Ces profits, comme ceux des grands groupes capitalistes, devraient servir à maintenir les emplois et les salaires de ceux qui les font vivre. On pourrait alors peut-être parler de gestion saine. Regardez aussi ce qui se passe chez Maflo, que tout le monde à Chartres connaît sous son ancien nom de Manuli, et qui produit des éléments de tuyauterie pour les directions assistées, systèmes de climatisation, suspension. Depuis plusieurs années, le groupe Maflo, qui a repris cette usine de sous-traitance automobile, a entrepris de transférer sa production en Pologne, où il a fait construire une nouvelle usine. Mais il faut rappeler que Manuli a pris de l'ampleur en s'installant, à des conditions très favorables, il y a une quinzaine d'années, dans une nouvelle zone spécialement aménagée par la municipalité de l'époque pour attirer ou retenir les entreprises. Et puis l'usine s'est mise à tourner à plein régime, en faisant travailler ses salariés comme des fous pendant des années, augmentant le nombre de machines à surveiller, exerçant des pressions permanentes sur tout le monde pour que chacun accepte de faire des heures supplémentaires ou ne prenne pas ses congés au moment où il le souhaitait, licenciant pour un oui ou pour un non. C'est tout cela qui a fait de Manuli une entreprise florissante. Eh bien, après avoir exploité à fond le filon des aides publiques et surexploité ses salariés, elle veut aller faire du profit ailleurs sans que personne n'a lui demandé de compte. C'est ainsi qu'après plusieurs plans de licenciement, il ne reste plus ici aujourd'hui que 130 personnes dont l'avenir n'est pas assuré, contre environ 1100 il y a 10 ans. La ville la plus touchée par les licenciements ces dernières années dans le département, c'est Dreux. Après la fermeture de Valeo, ex-Renault, de Dana, Perfect Circle, de Clarius Rosy, la quasi-fermeture de la Comasec, c'est le Trust Philips qui a fermé en l'espace de 10 ans ces deux usines qui avaient regroupé jusqu'à 2400 travailleurs au total. Et aujourd'hui, même dans un secteur florissant comme l'industrie pharmaceutique, c'est l'emploi de plusieurs centaines de personnes qui est menacé chez Ipsen Beaufort. Tout cela est une véritable catastrophe sociale pour cette agglomération ouvrière de 50 000 habitants. Et selon une statistique récente, Dreux est aujourd'hui la 10e ville de France la plus pauvre. Là encore, non seulement le gouvernement et les pouvoirs publics locaux n'ont mis aucune entrave à ses patrons, licencieurs, mais ils sont soumis à leur service. Pour prendre un seul exemple, ils ont dans le passé tous rempli les poches de Philips. La ville de Dreux, dirigée par l'UMP, la région, dont le président est membre du Parti Socialiste, et l'État. Et chacun en nom d'un prétexte différent, l'aide à l'emploi, l'aide à la recherche, la revitalisation du bassin d'emploi, etc. Évidemment, ils n'ont jamais demandé de compte lorsque Philips a fermé. Le résultat, c'est qu'à Dreux, une fraction croissante de la population sombre dans la misère. Une part de plus en plus grande de la jeunesse est sans perspective d'avenir. Elle commence souvent sa vie active comme chômeur, alternant petits boulots, missions d'intérim, promesses de stage qui ne débouchent sur rien. C'est tout cela qui enfonce dans la pauvreté matérielle et morale des quartiers populaires, des battes aux oriels, des chamards à la cité Prodome, avec comme corollaire le développement des trafics en tout genre et la montée des idées réactionnaires de tout poil, du Front National aux intégrismes religieux. Alors si les entreprises privées suppriment des emplois, le gouvernement n'est pas en reste au niveau des services publics. Il y a de moins en moins de personnel à la poste, aux impôts, dans les hôpitaux. Prenez sur un autre plan l'exemple de la route nationale 154. Alors ça fait des années que se pose le problème de la mise en 2x2 voies de cette route nationale qui traverse toute l'Eure-et-Loire et qui est de plus en plus fréquentée. Un certain nombre de tronçons, en particulier entre Chartres et Dreux, ont déjà été réalisés sur fonds publics. Mais le patronat et les politiciens locaux prétendent qu'il n'y a désormais plus d'argent dans les caisses et qu'il n'y aurait pas d'autre choix que d'avoir recours au privé pour faire avancer les choses rapidement. Et Jean-Louis Borloo, qui était alors ministre des Transports, a publié dans le journal officiel du 1er juillet 2010 sa décision de transformer en concession autoroutière la RN 154 entre Allennes et Nonancourt. Alors cette décision, elle s'inscrit dans la politique d'abandon par l'État de l'entretien des routes, du transfert au privé des routes nationales et des autoroutes non encore concédées. Mais ça, c'est ni plus ni moins une façon de plus d'engraisser sur le dos des usagers et des contribuables les trusts autoroutiers, qui ont déjà profité en 2007 de la privatisation des autoroutes. Au titre de l'incurie des pouvoirs publics, il faut aussi parler des transports ferroviaires qui, là, sont carrément en route vers le sous-développement. Il y a bien sûr la fameuse ligne de chemin de fer qui relie Chartres à la capitale régionale, Orléans. Alors cette ligne, elle existe, mais elle est fermée depuis 1942. Et sa réouverture hypothétique est sans cesse reculée. Annoncée dans un premier temps en 2003, on parle maintenant de 2018. Quant à la ligne Paris-Chartres-Le-Mans, elle fait partie de ces 12 lignes qui ont été officiellement reconnues il y a quelques mois comme malades par le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi. On ne compte plus en effet les innombrables retards, les dysfonctionnements de toutes sortes dus à la vétusté des installations. Locomotive qui prend feu, train roulant à 140 km/h avec une porte ouverte, manque de personnel, manque de matériel, train bloqué à cause des feuilles, de la neige, du froid, etc. Pour ne prendre que le seul exemple du mois de janvier de cette année, il y a eu 80 trains annulés, 260 qui ont connu des retards. Ce qui a conduit, à cette époque, un certain nombre d'usagers à protester et à manifester leur mécontentement légitime. Et il y aura de plus en plus de raisons de protester, puisqu'avec les nouveaux horaires annoncés pour décembre prochain, le nombre de trains directs entre Paris et Chartres va encore diminuer, ce qui va conduire à un allongement de temps de parcours pour la plupart des usagers. Et alors, si la SNCF était vraiment une entreprise préoccupée de satisfaire ses usagers, elle ne se contenterait pas de les indemniser chichement quand ils finissent par protester, mais elle fournirait un service efficace, digne du XXIe siècle, confortable et surtout très bon marché pour ne pas dire gratuit. Et pour cela, elle assurerait aux travailleurs du rail, les cheminots, de bonnes conditions de travail et elle commencerait par embaucher. Un autre domaine où le manque de personnel est manifeste et scandaleux, c'est celui de l'enseignement, où je travaille. Comme dans tout le pays, les écoles d'Eure-et-Loire subissent les effets de la suppression de 16 000 postes d'enseignants en cette rentrée 2011. Dans notre département, ce sont 13 postes qui ont disparu dans le primaire pour 200 élèves supplémentaires. En incluant l'enseignement secondaire, collège et lycée, on compte 70 postes en moins pour 500 élèves supplémentaires. Bien sûr, pour le ministère et ses représentants locaux, il n'y a pas de problème d'effectifs, pas de problème de moyens. Pour eux, les problèmes sont ailleurs. Ils s'attachent à parler d'autre chose. Ainsi, récemment, l'inspecteur d'académie a convoqué les directeurs d'écoles primaires de Chartres et des environs pour une réunion consacrée à la conduite à tenir dans les établissements en cas d'attaque terroriste, de séisme ou d'inondation. Je ne vais pas vous la raconter parce qu'elle a duré 5 heures. Une réunion de 5 heures catastrophiste, au dire des collègues y ayant participé. Mais une réunion qui n'a surtout pas abordé la seule et véritable catastrophe que connaissent quotidiennement les écoles, celle de l'explosion des effectifs dans les classes. Et l'inspecteur d'académie a déjà prévenu en septembre là, qu'il n'y aura pas suffisamment d'enseignants pour remplacer, lorsque leur professeur sera absent, les enfants, les élèves, seront pris en charge par les autres enseignants. Aux classes surchargées, il faudra donc ajouter de temps en temps des élèves d'autres classes. Voilà qui va aider les élèves en difficulté. Les classes maternelles à plus de 25 élèves sont monnaie courante. Celles à plus de 30 sont fréquentes. Et nombre de municipalités ont rogné ces dernières années sur les postes d'assistantes maternelles, les ATSEM, tellement indispensables dans ces classes et qui travaillent souvent plus de 9 heures par jour. Car le manque de moyens ne touche pas seulement le personnel enseignant, mais aussi les surveillants, les documentalistes, les infirmières scolaires et les assistantes sociales, le personnel ATOS chargé de l'entretien dans les collèges et les lycées. Pendant ce temps, le ministre Châtel a le culot de pérorer sur l'aide individualisée et d'annoncer à grand renfort de médias que la rentrée s'est bien passée. Alors, parlons aussi un peu de Chartres, où il faut dire que la politique du député maire local, Jean-Pierre Gorge, contribue à la dégradation sociale. Sur le plan local, depuis son élection au poste de maire, puis de député l'année suivante, il a entrepris de grands travaux pour remodeler et embellir la ville. Bien, mais au profit exclusif du centre-ville commerçant et au détriment des quartiers périphériques, de leur équipement et du logement social. Alors que les opérations d'embellissement du centre-ville se poursuivent, le manque cruel de logements sociaux ne cesse de s'aggraver. Plusieurs milliers de demandes de logements sont en attente sur l'agglomération chartraine, certaines depuis des années. Et pour ceux qui en ont un, les loyers ne cessent d'augmenter. L'enquête annuelle de l'association de consommateurs CLCV révèle ainsi que Chartres est une des communes qui ont le plus augmenté les loyers HLM. Quant aux logements neufs qui sont construits, ils sont pour la plupart d'un niveau de prix inaccessible à beaucoup de familles modestes. Et dans un quartier comme Beaulieu, dont le maire se vante de faire un modèle de rénovation urbaine, le résultat est qu'une partie de ceux qui y habitaient depuis longtemps en ont été chassés. Et cela ne fait que déplacer la misère qui augmente sensiblement dans le quartier voisin de la Madeleine, ou qui est reportée sur les communes voisines de Lucé et de Mainvilliers. Et évidemment, cela ne résout pas le problème dramatique du chômage, en particulier des jeunes. Alors oui, il y a bel et bien une politique volontaire et scandaleuse d'abandon par les autorités du logement social, qu'on camoufle hypocritement sous le vocable à la mode de « mixité sociale ». Sur un autre plan, le député maire de Chartres, Jean-Pierre Gorge, a fait récemment parler de lui, car il compte expulser la CGT de ses locaux des abbayes de Saint-Maurice. Depuis, les militants de ce syndicat et d'autres syndicats multiplient les initiatives pour obtenir la création d'une bourse du travail à Chartres. Bien sûr, le maire n'en a que faire. Il est aux petits soins du patronat local et de tout ce qui contribue au prestige de la ville. Comprenez, une maison des syndicats n'entre en rien dans cette politique, quand bien même on l'éclairerait à l'occasion de la fête de la lumière. Et bien ici comme ailleurs, les syndicats ont droit à un local pour se réunir, s'organiser, assurer des permanences d'aide et de conseils aux salariés, préparer la défense des travailleurs et les ripostes de demain. Et pour cela, ils ont besoin d'un endroit que l'histoire du monde ouvrier a appelé bourse du travail. Peut-être que M. Gorge n'est pas au courant, mais cet endroit, il existe dans la quasi-totalité des villes de ce pays. Eh bien, à Chartres aussi, ce lieu doit exister, ne lui en déplaise. moi, la politique locale n'est donc ni plus ni moins que le reflet de ce qui se passe à l'échelle du pays. Et c'est le cas également pour les sans-papiers, qui sont soumis à l'arbitraire des lois et décrets pris par les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, depuis 20 ans, avec des conséquences parfois dramatiques. Ainsi, il y a quelques mois, à Chartres, une femme sans-papiers, terrorisée, s'est jetée par la fenêtre du 4e étage quand les policiers sont venus frapper à sa porte. C'est ce qui fit aussi que des policiers se sont présentés il y a quelques années dans une école maternelle pour arrêter un enfant de 3 ans sans papier dans le centre-ville de Chartres. Heureusement, comme souvent, les réseaux de militants, le collectif des sans-papiers RESF, ont permis de cacher l'enfant. C'est aussi cela, l'application concrète de la démagogie anti-immigrée du gouvernement, de ces lois votées, entre autres, par nos députés maires locaux, Jean-Pierre Gorge ou Gérard Hamel de Dreux. Alors, face à une situation qui se dégrade à tous les niveaux, il est temps que la population laborieuse, celle qui a un emploi, comme celle qui en a été privée, fasse entendre sa colère. On ne peut supporter plus longtemps que les richesses s'accumulent à un bout de la société, pendant que le chômage et la pauvreté frappent à l'autre bout une grande partie des foyers populaires. Mais pour revenir sur la situation générale des travailleurs, comme sur les objectifs que le monde du travail doit se fixer pour remédier à cette situation, je laisse la parole à ma camarade Nathalie Arthaud.